I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello et bienvenue dans la partie 2 de l'épisode « Les questions que les femmes n'osent jamais poser aux hommes ». Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous conseille vraiment d'aller la voir puisque je vous introduis Hugo et Julien qui répondent aux questions. Ces deux hommes de 38 et 39 ans qui sont mes amis, qui répondent vraiment de façon hyper honnête et sans langue de bois, on va dire, avec un maximum de sincérité. Donc vraiment, c'est idéal si vous avez déjà écouté la première partie. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est l'épisode qui est juste avant. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter. On se retrouve pour la deuxième partie parce qu'on a beaucoup, beaucoup trop parlé pendant l'enregistrement. Je pense qu'on a fait quasiment 2 heures. Donc aujourd'hui, on est sur une partie où on va répondre à encore, je crois, 5-6 questions. Encore une fois, ce ne sont que leurs avis. Et évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, je peux tout à fait l'entendre et je ne suis pas responsable. Voilà, je me dédouane directement. En tout cas, on a passé un bon moment. J'étais vraiment hyper contente de cet épisode et de vos retours. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire peut-être qu'on pourra faire d'autres éditions avec d'autres questions parce que vraiment, vous en aviez eu énormément. Donc sur ce, je vous laisse avec cette partie 2 des questions que les femmes n'osent jamais poser aux hommes. C'est parti. Est-ce que vous préférez une femme entièrement épilée ou vous vous en fichez ? On va être totalement ouvert et sincère dans cette réponse. Enfin, vous pouvez l'être, aucun jugement. Je pense que même les femmes ont des préférences en termes d'épilation chez les hommes. Et je sais qu'il y a même des filles qui détestent les poils de façon générale. Donc, répondez sincèrement, ne vous censurez pas.
J'ai déjà eu des copines qui avaient des poils sur les jambes pendant quelques temps, enfin tu vois, parce qu'elles s'épilaient pas tout le temps, parce que je sais que c'est chiant. Bah en fait, j'ai un peu tout vécu, que ce soit totalement épilé, pas épilé du tout, voilà, des motifs, des hiéroglyphes, tout ça, enfin c'est sympa. Mais on va dire que j'ai pas d'attente particulière, parce que bah déjà je serais mal placé, parce que moi je suis assez poilu de base. J'essaie de faire attention, mais c'est vrai qu'on est toujours confronté aussi à l'inverse, à celles qui ne veulent rien du tout chez les hommes, ou alors celles qui justement disent « putain, si t'as pas de poils, c'est que t'es pas un homme ». Tu vois, ça fait trop corps de gamin, je sais pas quoi. J'ai déjà eu ça.
Pourtant, hein, les après, bodybuilders...
Non mais oui, mais après, ça va peut-être pas plaire à tout le monde aussi, que ce soit tout lisse. Donc, on va dire, ça me dérangerait effectivement les longs poils sous les bras, tu sais, qui n'ont jamais été taillés. Après, une repousse...
Moi, je pense que c'est pas du tout le même point de vue d'un homme ou d'une femme. Moi, c'est clair que... Moi, c'est peut-être un peu vieux jeu, mais moi, non, les poils, c'est niet. Genre, sous les bras, c'est mort. En fait, moi, je suis pas trop fan de ce vieux débat de féministe. Ah, j'ai des poils, donc je suis féministe. Non, pas féministe, même en traitant les poils. Donc, bref. Donc, c'est juste moi, j'ai grandi comme ça. Déjà, moi-même, quand mes poils commençaient à pousser sous les bras, je les cachais parce que je n'aime pas ça. Donc, c'est plus par rapport à moi. Donc, je n'aime pas l'avoir chez le sexe opposé. En fait, de plus en plus, en dessous de la ceinture aussi, je ne peux plus les poils plus trop. Il y en a une petite repousse ou machin, c'est pas dérangeant. Mais la touffe assumée, non, je ne peux pas. Et pareil, rédhibitoire, mais au possible, c'est la moustache. Voilà. Alors, comme disait Hugo... Moi, que la personne n'ait pas fait les demi-jambes, les jambes, parce qu'elle n'a pas le temps, flemme, aucun souci. Les bras, tout ça. Mais la moustache, je pense que moi, c'est non.
Bon, moi, particulièrement, je n'ai pas de préférence notable, mais j'ai plein de copines qui n'accepteraient pas qu'un mec ait des poils sur le torse parce qu'elles n'aiment vraiment pas ça. Et à l'inverse, il y en a qui n'accepteraient pas un mec complètement imberbe qui n'a pas de poils sur les jambes. Donc, en fait, je pense que c'est juste l'image... stéréotypé de base qu'on a de l'homme et de la femme qui doit peut-être être changé ou pas. Et en fait, je pense que c'est juste... c'est limite comme tu préfères les blondes ou les brunes. Bah, tu préfères les poils ou pas de poils. voilà, enfin c'est un attrait physique et on s'en fiche en fait. Mais en tout cas, l'essentiel, je pense que c'est d'être juste en accord avec ses propres choix, de faire ce qu'on veut. Et si malheureusement, bah ça plaît pas à la personne en face, bon, on peut en discuter. Mais moi, vous savez que voilà, petite anecdote, on s'en fout, mais moi je raconte ça. Mais en fait, moi, je prends pas la pilule. Et en fait, chez les femmes, de base, la pilule régule le taux de testostérone chez les femmes. Ce qui fait que, de base, j'ai une pilosité classique. Bon, je raconte ça. Mais depuis, là, vu que j'ai 28 ans, depuis, je pense, mes 25 ans, j'ai des poils qui poussent sous le menton. Mais c'est quoi ? C'est... Avant, j'en avais un, et puis là, j'en ai 3-4. Et je me dis, mais à 50 ans, je vais en avoir combien ? Donc, c'est vrai que je ne sais pas si les filles qui nous écoutent, elles peuvent avoir ça. Moi, on m'a dit que potentiellement, ça pourrait être dû à la pilule ou à l'âge, en fait, parce que c'est vrai, on voit, en fait... à des femmes de 60, 70 et plus commencer à avoir des poils un peu sortis de nulle part. Et ben les hommes, ils ont des poils dans les oreilles et puis nous, on a des poils sur la joue. Voilà, c'est pas grave, c'est l'âge et c'est ok. Bon, prochaine question.
Sortir avec une personnalité publique, ça vous dérange ?
Tiens, ça, t'es sûr que c'est les abonnés qui l'ont posé, celle-là ?
Bah, c'est pas mon cas. Ah, mais sortir en non, mode...
Si même... t'avais l'occasion, en fait.
Est-ce que, par exemple, tu pourrais sortir avec Gillo ?
Alors, c'est... Moi, je pense que ça peut être flatteur si quelqu'un, genre, tu dis que quelqu'un peut avoir qui elle veut, mais elle t'a choisi. Donc, c'est déjà, c'est que tu sors du lot. C'est que tu as pu capter son attention ou lui apporter quelque chose que tous les communs, entre guillemets, attention, c'est pas une insulte, ne lui ont pas apporté. Ça peut être des choses qui la remettent soit, les pieds sur terre, tu vois, ou des choses que peut-être qu'ils la font vibrer. Mais je pense qu'il y a ce côté-là où c'est plutôt flatteur qu'elle te donne ton attention, alors que tu as plein de fans qui vont avoir son attention. Et puis, la seule chose que je pense qui pourrait être un peu problématique, c'est que, ça peut être cliché, mais tu n'as pas de moment de réelle intimité. Il faut vraiment se cacher pour que tu puisses vraiment profiter d'elle. Parce que partout où tu vas vouloir aller, forcément, il y aura du monde. À part aller pique-niquer en Corrèze ou je ne sais pas où. Mais tu vas forcément rencontrer des gens. Donc, c'est plus ce côté-là qui va être problématique. Mais sinon, moi...
Mais après, le fait que ce soit quelqu'un qui s'expose et qui puisse exposer sa vie, ça ne te dérange pas ?
Moi, aucun souci. Attention, il ne faut pas qu'elle s'expose, mais il ne faut pas que ce soit ambigu avec qui elle s'expose. Faut pas qu'elle fasse de double jeu, qu'elle séduise d'autres personnes ou machin. Si c'est le taf ou machin, ok. Mais pas que ce soit... si c'est moi, c'est moi.
Après, je pense aussi que la question, elle peut être perçue dans le sens où l'aspect négatif de la chose pourrait être... On parle souvent de l'ego des hommes, etc. Et le fait d'être dans l'ombre d'une femme, d'une personnalité publique, ça peut jouer sur certains
hommes. Parce que
hommes.
Je suis un homme, tu veux dire ?
Non, je parlais en général. Moi, ça ne me concerne pas non plus parce que je réagirais un peu comme toi. Je me sentirais flatté et j'aurais aucun souci à...
Mais comme tu dis, je pense que c'est ça. Tu soulèves un truc, c'est que... Parce que on est l'homme est censé l'homme est enfin dans l'inconscient enfin c'est genre l'homme il pourrait se sentir vexé de pas être diminuer, dans la lumière tu vois et bon moi pas du tout enfin, j'en ai rien à foutre
non nous on a enfin moi en tout
c'est
cas
c'est comme je te coupe c'est comme le vieux débat ouais ta femme si elle gagne plus mais j'en ai rien à foutre en fait tu sais genre tant mieux celle qui mettra le beurre dans les épinards. Enfin, je veux dire, ça fait quoi ? Ça permet masculer parce qu'elle gagne 2-4 plus que moi. Enfin,
c'est toujours nous qui allons ouvrir le pot de confiture. Hein.
Exactement.
Oh là là ! Non, mais par contre, c'est trop bien que vous souleviez ça. Donc, je ne suis pas Gillo. Vous vous en doutez, sinon je ne serais certainement pas là. Mais c'est vrai que...
C'est Gillout. Gillout.
Mais non, mais c'est vrai que... Moi, c'est un sujet qui revient souvent avec les hommes. Je vous en ai peut-être déjà parlé, mais où parfois... J'ai l'impression qu'on me met sur un piédestal, alors que moi, pour le coup, j'ai jamais pris la grosse tête ou je me suis jamais prise pour... Même pour une personnalité publique, j'ai du mal à le dire. Et je sais que je ne suis pas extrêmement connue non plus, et heureusement, et j'en suis très contente. Mais pour autant, dans ma vie au quotidien, quand le mec avec qui je date ou que je vois se rend compte de l'impact de ma notoriété... dans la vraie vie ou sur l'argent que je gagne ou sur les bénéfices en nature ou les cadeaux que je peux recevoir, ça les, voilà, ça, ça peut un peu le frustrer, le brusquer, et toujours en fait être dans la comparaison. Donc ça me fait plaisir quand tu dis que elle peut gagner plus, qu'est-ce que j'en ai à faire, mais vraiment j'ai la sensation que c'est pas la majorité des gens, et que au-delà d'une question d'argent, il y a aussi une question de comment elle peut faire mieux que moi, comment elle peut être meilleure dans les domaines. J'ai l'impression que les hommes se voient de façon générale, hein, je généralise vraiment beaucoup, mais se voient et se doivent même d'être meilleurs dans chaque domaine où c'est pas genre la cuisine, le ménage et toutes ces absurdités. Mais bref, donc vous en avez même pas, enfin ça vous a même pas, pas choqué plus que ça, vous l'avez même pas énoncé, mais je sais qu'il y en a même, ça gêne aussi de juste se dire mais elle va s'exposer, elle va se montrer, donc là ça veut dire peut-être des photos en maillot de bain, ça veut dire des stories tout le temps, et puis au-delà de ça, peut-être qu'il y a aussi des gens qui ont juste pas envie, et je pourrais totalement le comprendre, mais je trouve que quand même en fait être une personnalité publique c'est plus un frein qu'autre chose, moi j'ai l'impression.
Après il y a deux choses qu'il faut différencier, c'est tu as la peur que peut avoir quelqu'un de se mettre avec une personnalité parce que justement ça va influencer sur son comportement en société, et tu as tout ce qu'implique sa personnalité en termes de travail et d'exposition, et c'est deux choses différentes pour moi. C'est-à-dire que tu peux aller te pavaner en robe de soirée, faire des shoots photos en maillot de bain, etc. Ça fait partie de ton métier. C'est-à-dire qu'au-delà de l'interaction que tu vas avoir avec la personne, tu sais à tout moment, lorsque tu te lances dans une relation comme ça, que c'est son quotidien. Donc si ça ne te va pas, tu ne peux pas lui reprocher après. Par contre, si jamais tu te mets avec une personne qui est donc une personnalité publique, et qu'au démarrage, quand tu la rencontres, et que vous vous voyez en petit comité ou tu vois, en toute intimité, elle a une certaine personnalité, et que quand elle est exposée ou face aux médias ou dans sa bulle médiatique, tu ne la reconnais pas parce qu'elle ne te calcule pas ou parce qu'elle adopte un comportement adapté complètement aux antipodes de ce que tu connais, bah, tu peux avoir l'impression de sortir avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et ça peut être difficile à gérer parce que soit tu vas te contenter de l'avoir dans les moments à la maison sans les projecteurs pour être sûr que tu as affaire à la personne que tu aimes, soit ça va être compliqué de gérer la médiatisation parce que cette personne-là, tu ne l'aimes pas vraiment, parce que, on va le dire aussi, il y a des personnalités publiques, elles endossent un rôle quand elles sont en public, elles vont mettre en avant plus de choses, plus des côtés « ouh, c'est marrant, machin », participer à des émissions, et aussi pour gagner en popularité, souvent on est obligé aussi d'accepter certaines choses si on veut pas voir sa carrière s'éteindre. Enfin tu vois, il y a plein de contreparties à cette vie publique, et souvent le partenaire qui n'en fait pas partie, parce qu'il y a ça aussi, c'est est-ce que je suis avec une personnalité publique parce que j'en suis moi-même une, ou est-ce que je suis un lambda. Je dis lambda, c'est pas péjoratif, mais on va dire quelqu'un qui n'est pas connu.
Si t'es toi-même connu, là il y a l'ego de horrible. Genre, t'imagines, alors, pardon, juste en plus, s'il y a le rapport homme-femme, si toi t'es une personne connue et que ta femme est plus connue que toi, genre, je sais pas, Beyoncé et Jay-Z, ben, c'est compliqué. Genre, si toi là-dessus t'arrives pas à faire ce qu'il faut.
C'est encore une question d'ego là. Hein,
oui,
c'est...
voilà. Mais...
Ah ouais, ouais, non, mais moi, je me verrais pas du tout justement avec quelqu'un qui fait le même métier que moi et qui aurait plus ou moins le même niveau ou un petit peu en dessous. Ou même au-dessus, en fait, moi, de façon générale, juste, je ne me verrais pas avec quelqu'un qui crée du contenu aussi. Parce qu'effectivement, il y aurait cette comparaison constante. Et en plus, quand tu fais la même chose, pourquoi moi, ça ne marche pas? Alors qu'elle, peut-être que moi, je travaille plus qu'elle. Et puis, en fait, elle gagne quand même plus d'argent, c'est injuste. Et puis, c'est une femme, donc elle a, en plus, enfin, moi, en tout cas, dans ce que je fais, y a plus de facilité à se faire de l'argent quand t'es une femme que quand t'es un homme. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'angoisserait constamment, et puis j'aurais pas envie de parler statistiques, de parler argent, et finalement de sortir des choses simples de la vie. Après, je sais qu'il y a des couples d'influenceurs, pour le coup, moi, que je visualise et qui ont l'air d'être très bien et très sains, et je pense que c'est pas impossible. Mais voilà, je pense que les mecs, ils doivent être mettre leur ego de côté quand même, et puis les filles aussi, en fait, parce qu'il y a aussi des filles qui ont envie de prouver forcément et tout, et c'est pas, ça sert à rien. Donc moi, si jamais il y a une petite célébrité qui passe par là, qu'elle n'est pas créatrice de contenu, écoutez, écrivez-moi, on sait jamais, après on peut s'entendre quand même.
Qu'est-ce que tu envies aux femmes lorsque tu es en société ? Intéressant comme question, ça. Ce que je peux envier aux femmes, c'est... qu'elles nous ont nous, quoi. Non, je rigole, c'est pas vrai. Vas-y, tu fais quoi, là ?
Je le buzz. J'en ai un. Ce que j'envie aux femmes... Attention à ce que je vais dire, c'est qu'elles ont nettement plus le choix que nous sur la pléthore de prétendants que vous avez. Alors que nous, on a beau avoir plein de qualités, parfois ça marche pas.
Ah, c'est vrai. On a plus besoin de faire nos preuves en termes de relations, je parle pas au travail, etc. On a plus besoin de faire nos preuves parce que les femmes ont beaucoup d'attentes envers nous. Alors que nous, des fois, on n'en a pas. On va se contenter de plein de choses.
Mais ça me fait rire parce que c'est un truc que j'ai déjà dit souvent avec mes potes. C'est que moi, ce soir, je sors. Si je veux, par exemple, coucher avec quelqu'un, je pourrais coucher avec quelqu'un. Vous pouvez avoir toute la motivation du monde. C'est toujours la fille qui finira par choisir. Enfin, entre guillemets, vous avez compris. Mais...
Donc, c'était plus ça. C'était le luxe du choix, en fait. Et ça, c'est ouf parce que. Et ça. Je trouve que ça s'amplifie maintenant encore plus. Les filles, à ce niveau-là, elles ont aucun problème, alors que le mec, mais il lutte de ouf. C'est très compliqué, les rencontres. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup plus de sites de rencontres. Mais c'est pareil, c'est cheaté pour les filles. Je le vois, hein. Elles s'inscrivent une seconde, allez, genre une demi-heure sur une application de rencontre, elles ont 1000 notifications, même au bout de 3 semaines, on en a une, quoi. Le principe d'avoir le choix, c'est de faire le choix. Nous, on n'a pas le choix. Nous, non seulement, on ne peut pas faire le choix. Parce que si sur les deux qui viennent vers toi, c'est pas ce que tu veux, bon, bah, tu as encore moins le choix. Je préfère avoir le choix. Ok, tu as des charros, mais comme de partout, mais tu n'as pas que des charros dans l'eau. Sur 1000, tu n'as pas 1000 charros, tu vois.
Et toi, du coup, Hugo, s'il y avait un truc que tu enviais aux femmes. Mais je suis assez d'accord avec toi, pour le coup, Julien, en tout cas, c'est vrai que. C'est vrai qu'on a ce luxe-là.
Ça va rejoindre un peu, on va dire, cet aspect des femmes qui ont le choix. Mais je vais le transposer à un autre aspect de la vie, c'est que je trouve, à mon sens, que les femmes ont plus de filets de sécurité dans la vie que nous.
C'est-à-dire ?
Je m'explique. Prends un homme, une femme, qui demain perd son travail, se retrouve dans une situation financière difficile... L'homme aura toujours plus de mal à trouver une femme qui va bien vouloir s'occuper de lui et gérer pour lui que l'inverse. Parce que c'est dans les mœurs. Il y a beaucoup d'hommes d'ailleurs qui adorent être celui qui donne tout à sa femme. Enfin, voilà. C'est un côté de dominant pourri, tout ce que tu veux, des mœurs de l'époque. Mais on va quand même dire que le schéma existe toujours et que t'as plus de chances en tant qu'homme de finir SDF ou en prison ou te suicider, entre guillemets, parce que t'es dans une situation difficile, parce qu'il y a personne qui va te tendre la main.
T'es moins aidé, ouais.
Alors qu'une femme, on va dire qu'il y aura peut-être toujours un homme, ou en tout cas plus de fois, un homme qui va lui tendre la main.
Parce qu'elle a aussi cette image de fille fragile, à protéger.
Mais c'est vrai.
Oui.
Alors que, tu vois, regarde, on parlait tout à l'heure des hommes, faut pleurer, etc. Nous, notre fragilité, elle sera pas récompensée. Si tu pleures dans la rue et que t'es SDF, il n'y a pas une seule femme qui va te donner la main. Alors qu'une femme qui est triste et qui donne un peu cet aspect de dire vouloir être à la comment dire, en détresse, comme on dit, tu sais, dans les films, les princes et princesses, et bah, y aura plus de facilement de main tendue que pour un homme.
Moi, c'est vrai que j'essayais de, quand j'avais lu cette question, j'essayais de réfléchir à ce qu'un mec pouvait dire et j'avais pas du tout pensé à ça. Enfin, j'avais même du mal à trouver au final. Ok, bon, il reste plus beaucoup de papier.
Est-ce qu'une femme avec un body count plus élevé de beaucoup que vous, ça vous dérange ?
Exactement. Okay. La définition, si vous ne la connaissez pas, du body count, c'est le nombre de personnes que tu as fréquentées.
Moi, j'ai pas de body count, j'ai que des hurt count.
Du coup, la question, en gros, c'est est-ce qu'une femme qui en a beaucoup plus que vous, ça vous dérange ?
Alors, personnellement, non. Après, tout est relatif. Hein. Si elle n'a pas 3000 au compteur, ça pose aucun problème. Sauf si elle fait pas la meuf. Genre, je gère, t'inquiète. Tu sais comment j'ai au compteur, machin. Ou qu'elle fait genre, elle m'apprend des choses, alors qu'elle m'aime pas. Enfin, genre, juste sois toi, tu vois. Donc, moi, personnellement, ça me dérange pas qu'elle ait 20 mecs ou 300. Mais après, c'est vrai quand même que quand tu atteins un certain nombre en compteur, tu te dis, tu te poses des questions, c'est pourquoi ? Est-ce que c'était une période ? Donc là, ok. Est-ce que c'est parce qu'elle est compliquée ? Est-ce que parce qu'elle elle est paumée, quoi ? Donc, ou elle était trop difficile. Enfin, après, tu peux commencer à poser des questions. Alors que tu peux poser toutes sortes de questions d'une meuf qui a que deux personnes à son compteur. Tu peux dire, ah merde, ça se trouve, elle n'a pas assez expérimenté, elle n'a pas assez de recul sur ce qu'elle veut comme situation.
Je rebondis juste sur ce que tu as dit pour vous rajouter une question qui, en fait, était dans le bocal et du coup, qui est intéressante. C'est est-ce que une femme qui est toujours vierge qui fait face à vous, est-ce que ça vous dérangerait ou pas ?
Oh bah non, justement, parce que moi, j'aime bien justement accompagner la personne dans l'acte, surtout quand on ne se connaît pas. Il faut qu'on apprenne à se découvrir. Donc pour moi, ce n'est pas du tout une gêne. Je ne sais même pas, mais je ne pense pas être confronté, mais ça ne me dérangerait pas.
Alors moi, je vais répondre sur les deux côtés. Donc les filles qui ont couché avec plusieurs personnes, ça ne me dérange absolument pas. Parce que je ne suis pas resté à l'âge de pierre où c'était mal vu, tu sais, une femme qui couche avec beaucoup de mecs. Alors, c'est au-delà de dire qu'elle en a plus que moi. C'est juste une femme qui assume sa sexualité, ses envies. Je trouve que c'est normal. Et au contraire, ça me conforte dans mon choix de partenaire aussi, parce que je me dis, bah, quelqu'un qui assume sa sexualité va être d'autant plus ouverte à accepter mon mode de fonctionnement, à faire des relations, on va dire, sans forcément se prendre la tête, mais de qualité. Ça ne m'a jamais dérangé, parce qu'au contraire, je suis pour que la femme s'émancipe de tous les jugements masculins négatifs, de dire que plus tu te tapes des mecs, t'es une salope, tout ça, etc. Alors moi, je n'ai jamais adhéré à ce constat. Je trouve que c'est réducteur de réduire quelqu'un à son expérience sexuelle. Alors, je peux comprendre quand Julien il dit, oui... si elle couche beaucoup avec des garçons, est-ce que c'est parce qu'elle a un manque à combler ? Tu vois, ça peut être aussi d'un recours psychologique. Mais on va dire dans l'absolu, si elle couche avec des mecs et qu'elle l'assume et qu'elle se fait plaisir, qu'elle se protège, bah, y a pas de raison en fait. C'est juste que peut-être jusqu'à maintenant, elle privilégiait le plaisir et puis maintenant, elle veut se poser. Ou voilà, enfin, y a pas de jugement négatif à avoir. C'est valable chez les mecs aussi. Hein. Peut-être t'as un mec qui couche beaucoup avec les femmes, c'est quelqu'un qui a quelque chose à prouver ou quelque chose à compenser. Pour l'aspect, par contre, vierge, moi, je sais que c'est quelque chose qui... Je l'ai vécu qu'une fois. J'étais très amoureux. Je pense que c'est une fille qui va toujours compter pour moi. Et c'est vrai que même si on a mis du temps à coucher ensemble et pour l'avoir désiré énormément, au moment où c'est arrivé, j'ai eu quand même peur de faire quelque chose d'important pour elle, qu'il était peut-être moins important pour moi parce que je l'avais déjà fait. Et du coup, je me suis dit, mince, je suis en train de faire une première fois à quelqu'un et j'ai pas envie de lui laisser un mauvais souvenir. Et en plus, comme je suis toujours très pessimiste sur les relations, ça malheureusement ne changera pas. Même si j'étais très amoureux d'elle, je me suis dit, et si jamais on se sépare, qu'est-ce qu'elle va garder de tout ça ? Et elle va sûrement associer sa première fois avec une rupture ou peut-être une relation qui s'est mal finie ou des choses comme ça. En fait, c'est pas forcément vrai dans les faits. C'est peut-être sûrement pas ce qu'elle s'est dit dans sa tête, mais j'avoue y avoir pensé, et je trouve que prendre la virginité de quelqu'un, c'est une responsabilité. Lorsqu'elles étaient jeunes, il y en a qui ont eu la chance de le faire avec quelqu'un pour qui elles avaient énormément de sentiments, qui étaient très respectueux, etc. Il y a eu des premières fois aussi qui se sont fait par dépit, par genre je veux m'en débarrasser, tu vois. Et j'avais peur en fait de ça, c'est d'avoir une trop grosse responsabilité, même si ça se passe bien, que je sois ce mec-là qui va rester dans son esprit parce que j'ai été le premier, mais peut-être pas pour les bonnes raisons, tu vois ?
Alors moi, attention, moi c'est là où j'apporte un peu ma négativité. Ok, c'est bien, c'est sûr que tu prends quelque chose de particulier à la femme, mais par contre, moi je trouve qu'il faut vraiment désacraliser ce premier acte, parce que c'est une pression que les filles se mettent. Je peux comprendre qu'elles ne veulent pas se donner au premier, que le premier doit ci, doit ça, mais je pense qu'il faudrait plutôt se dire c'est pas forcément the one avec qui je vais plus être vierge ou qui va prendre ma virginité, mais plus se dire il faut que ce soit un compagnon qui m'accompagne dans cette première étape, même si je ne reste pas avec lui. Il faut au moins que ça se fasse bien, que ça se fasse correctement. Et pas forcément mettre la pression de te dire ouais, ça sera lui l'homme de ma vie, machin. Du moment que ça se passe bien, que la personne est bienveillante lors du premier acte et qu'il te met en confiance, qu'il te met à l'aise, qu'il te rush pas, qu'il te force pas, qu'il te brusque pas, ça, même si ça peut se finir dans 3 jours, une semaine, 1 an, 2 ans, pff, en fait, c'est du moment que ce premier acte a été consenti et fait dans une manière douce, respectueuse, qu'est-ce qu'on s'en fout que la personne X, Y te l'ait prise, cette virginité, tu vois. Donc, c'est pas du tout pour contredire ce que tu dis.
Bah surtout que moi, je parlais surtout de la pression à moi. C'est oui, pas forcément voilà. Elle qui se la mettait, tu vois. Oui, j'ai essayé d'anticiper.
C'est pour ça qu'il faut aussi sacraliser pour les deux. Parce qu'elles, il faut plus qu'elles s'en mettent. Et pas non plus qu'elles en mettent à leur partenaire. Du moment que leur partenaire montre qu'elles sont vraiment. Enfin, qu'il est vraiment, pardon.
Bienveillant.
Bienveillant, avenant, doux, tu vois.
Et du coup, j'ai une question pour toi, Ticia, pour enchaîner.
Mm-hmm.
Est-ce que tu penses qu'une fille vierge préférera faire l'amour avec un homme vierge pour, entre guillemets, passer l'étape à deux, ou qu'il n'y a vraiment pas d'attente de ce côté-là et il n'y a pas de meilleure façon, de meilleur moment ou de meilleur partenaire, entre guillemets?
Moi, je parle en mon nom. Je pense que à l'époque, moi, ma première fois, je l'ai fait avec quelqu'un qui a eu aussi sa première fois avec moi. Donc, je vois ça vraiment comme un échange commun où on est vraiment au même pied d'égalité et où on a tous les deux les mêmes craintes, ce qui font qu'elles s'annulent presque, parce que on sait de là où ils s'inquiètent, etc. Et je pense que je préférerais, si j'étais encore vierge aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas du tout.
Ah bon ?
Non, je pense que je préférerais le faire avec quelqu'un qui lui aussi est aussi vierge, pour être au même niveau. C'est vrai que je me serais mise directement une pression supplémentaire, rien que de la fellation, de me dire mais comment je fais, s'il me juge, et ça, parce que aussi souvent la première fois qu'on fait l'amour avec quelqu'un, c'est pas forcément à ce moment-là qu'on est le plus dans la communication, enfin même si sauf si c'est quelqu'un que t'aimes et que c'était quand on était très jeune et tout. Sinon, c'est vrai que généralement, moi, je trouve, et c'est aussi pour ça que je suis plus tellement adepte des one-shots, je trouve que c'est jamais le meilleur sexe quand c'est une première fois et que t'as pas discuté. Donc en fait, le mec, il te fait des choses que t'aimes pas. Toi, tu fais des choses que peut-être il va pas aimer. Donc, non.
Moi, je trouve que je discute souvent quand même quand je fais l'amour avec une femme. La première chose que je lui demande, c'est comment tu t'appelles. Je trouve ça important.
Bon les gars, on se fait une dernière question.
Allez,
on a tellement parlé mais c'était trop intéressant. Je fais la dernière.
Tu lis la dernière.
Ok. Si elle est nulle, je change. Est-ce que vous feriez des choses romantiques si la société ne vous jugeait pas?
Ah, c'est intéressant comme question.
Moi, je fais des trucs romantiques juste parce que j'ai envie de les faire. Et comme je dis, le jugement de la société, je m'en fous en fait.
J'attends toujours. Je suis pas quelqu'un de très romantique de base, je vais pas m'en cacher. On a bien rigolé la dernière fois avec Julien parce que on se fait souvent des confidences et tout, pas sur l'oreiller mais sur le canapé. Et je lui dis souvent même que tu vois dans les films à l'eau de rose ou des films où il y a des scènes de romantisme, ça me met mal à l'aise. Tu vois, des grosses embrassades en public, des trucs que je vais qualifier de gnangnang, ça me met mal à l'aise parce que pour moi c'est pas ça l'amour. C'est plus être là pour l'autre, être présent, tu vois, c'est devenir un pilier pour l'autre personne. Le romantisme, pour moi, c'est un peu de la poudre aux yeux pour que les autres nous envient ou pour rentrer dans des cases. Et c'est pour ça que je déteste la Saint-Valentin. Pour moi, c'est que pour acheter des chocolats, enfin, c'est hyper commercial. Et souvent, des couples qui vont se foutre sur la gueule toute l'année. Ils vont dire « Ah, on est à Saint-Valentin », ils vont prendre en photo des trucs « Ah, oh, c'est génial, trop bien, on s'aime et tout », et le reste de l'année, ça va être des portes dans le nez, des trucs comme ça. Non, mais c'est pour imager, mais c'est un peu ça. Je trouve ça hypocrite, en fait. Le romantisme, c'est hypocrite.
En plus, j'ai l'impression que le romantisme, c'est un peu une arme mise à disposition des femmes pour juger à quel niveau leur mec est en termes de docilité, tu vois ce que je veux dire ou pas ?
Il y a le portefeuille aussi.
Ouais, non, mais c'est pour dire...
Je rigole, vas-y, buzz, Tissa, n'hésite pas.
Voilà, si je pourrais en fait, c'est savoir, en gros, c'est des témoignages qui montrent à quel point leur mec est vraiment accroché et ferait tout n'importe quoi pour dire, moi je suis quelqu'un qui, je peux être romantique, mais quand je suis romantique, c'est vraiment donc spontané, Et c'est des choses... Enfin, c'est pas tout le temps, parce que quand c'est trop, c'est, je trouve que ça perd un peu justement de son romantisme. Et puis, je trouve que c'est un peu une pression. Comme tu disais, genre pour un peu mettre la peau aux yeux, dire « Ah bah le mien est plus romantique que toi, parce que regarde, il m'a fait ça, 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 ça. »
Et puis le curseur du romantisme aussi, on le place où on veut. C'est-à-dire que le romantisme, on peut mettre plein de choses dedans. C'est pas que les fleurs, c'est pas que les restos, c'est pas tout ce que, entre guillemets, on voit à la télé, cette espèce d'atmosphère où on a l'impression que c'est féerique et tout. En fait, non, c'est pas ça. Je pense que le romantisme, si on devait revenir vraiment à l'origine du truc, c'est connaître sa partenaire pour savoir ce qu'elle aime et avoir des petites attentions en fait, de c'est temps ça, en
c'est
temps.
Que je... Ouais, je pense pour, que c'est être attentionné en fait ça. Qui est plutôt...
Être attentionné, bienveillant, être là pour la supporter, tu sais, genre dans ses moments difficiles, etc., les épreuves. Par exemple, moi, je préférerais 10 000 fois, si j'étais une femme, avoir un homme qui va se décarcasser pour moi si je suis en galère. Par exemple, je suis en panne sur la route, il vient me chercher, il met son travail en stand-by, etc. Plutôt qu'un mec qui m'offre des fleurs tous les vendredis, mais de l'autre côté, qui me trompe, tu vois.
Ah oui, bon, bah, ça, tout le monde préférait, mais...
Non, mais ce que non, je veux dire, oui, c'est je... que... Il y a des petites attentions qui vont passer à la trappe et hors du radar parce que ça rentre pas dans les codes du romantisme ouais. médiatique, alors que pour moi ça a beaucoup moins de valeur que être disponible et avoir ce genre d'attention.
En fait ouais, ça c'est que le romantisme a été un peu galvaudé avec les années parce que il a encore ce cliché de dire les fleurs, les chocolats, le dîner en amoureux machin, alors que ça c'est bon, c'est rincé. Tu peux tout simplement, comme disait Hugo, tu sens que ta partenaire elle a passé un très mauvais jour. Il suffit juste de la relaxer, d'être à l'écoute. Et rien que là, déjà, c'est un geste d'attention. Donc, ce n'est pas romantique parce qu'il n'y a pas la musique, les fleurs, machin. Mais l'affinité est que c'est un geste pour la personne. Et c'est ça, en fait, qui compte, plutôt que de lâcher le bifton pour dire « Hey, j'ai réservé la table ici, je t'ai amené dans telle voiture et je t'ai acheté des fleurs, machin, ou une telle robe, ou machin. »
Finalement, le plus beau des romantismes, c'est de savoir capter les choses qui vont pas chez l'autre et d'être à l'écoute. Je pense que la plus belle qualité d'un homme aujourd'hui, c'est sa capacité à écouter sa partenaire et à capter ses envies, ses besoins, et de la soulager quand elle, ça va pas. Et au lieu de lui offrir des paillettes qui, au final, ne la rendront pas plus heureuse, parce que souvent, les gens, ils ont des difficultés par leur quotidien. Donc, finalement, ce type de romantisme que je considère hypocrite, c'est de la pommade bien étalée, là où plutôt on cherche à avoir des bandages et de la cicatrisation et de la guérison, voilà ça.
Mais que de belles réflexions. Non mais vraiment, je suis contente de ce que vous avez dit là aussi, c'est très bien. J'ai deux dernières questions et elles ont disparu, mais c'est pas grave parce que je les ai en tête bien évidemment. Est-ce que vous stalkez et est-ce que vous ghostez ? Stalker, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est... aller voir de façon un petit peu trop intrusive le profil de l'autre, ses abonnements, si on parle des réseaux sociaux, à son insu, voilà, ça à son insu. Et le ghosting, c'est arrêter de répondre à quelqu'un de façon imprévue et imprévisible, comme ça, du jour au lendemain. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, stalker et ghoster ?
Alors moi, stalker, non. Peut-être, tu sais, quand les débuts, toujours pour les rencontres, ne serait-ce qu'avec les applications de rencontres, il y a 2-3 photos, mais bon, on prend toujours les meilleurs profils. Donc, tu ne peux pas te stalker, c'est juste que tu veux vraiment parfois voir sous un angle qu'elle n'a peut-être pas choisi, tu vois, pour voir si c'est vraiment, ça correspond au profil. Mais sinon, stalker de manière vraiment péjorative, perverse, non, pas du tout. Non, franchement, j'ai pas besoin de stalker. Par contre, c'est vrai que après, ça peut aussi, quand tu as fini une relation, que tu n'arrives pas à passer à autre chose, il y en a parfois, ils vont retourner sur le profil de la personne parce qu'ils veulent de nouveau voir ce qui se passe. Donc, ça peut être du stalk. Mais c'est.
Un peu de la curiosité aussi. Hein.
Oui, mais certains, c'est vraiment, vraiment prononcé, tu vois. Ils vont des fois créer des faux comptes pour aller voir, interagir. Alors, t'as un nouveau, t'as trouvé un mec ou enfin, tu vois, des trucs de fou.
Donc c'est ça, plus c'est... que stalker là, du coup.
Oui, mais c'est, si ça ne suffit pas juste d'avoir des visus, il veut. Bref, là, on dérive. Mais ouais, moi, ça ne m'arrive pas parce que j'en éprouve pas le besoin. Et ghoster, alors, ça ne m'arrive pas non plus. Ce que j'essaie vraiment de dire les choses. Genre, si vraiment, genre, non, stop. Je n'aime pas ghoster parce que je n'aimerais pas qu'on me le fasse. Voilà, simplement.
Moi, pour l'aspect stalk, j'ai jamais été quelqu'un qui cherchait à avoir de l'information. Je détesterais qu'on me fasse ça, d'ailleurs. Par exemple, quelqu'un qui va regarder combien j'ai d'abonnés tous les jours.
Pourtant, moi, je te stalk beaucoup, Hugo.
Ouais, mais ouais. Ça, c'est parce que tu veux voir si mes cheveux blancs, ça évolue dans le temps, mais... Je pose pas trop de photos de moi, à part des photos... Dès que je pose une photo de moi, t'as son outrage, donc j'ai arrêté. Et non, en fait, je trouve que moins on en sait, mieux on se porte. Et que souvent, comme dit le jargon, ce que papa ne sait pas ne le dérange pas. Tu vois. Et moi, j'aime pas aller farfouiller, j'aime pas aller fouiner. Par exemple, quand je me sépare de quelqu'un, je ne veux pas savoir ce qui se passe derrière, parce que c'est trop douloureux de savoir que bah, elle continue sa vie sans toi si jamais t'es peiné, tu vois. C'est trop douloureux de voir qu'elle se remet de toi alors que toi tu galères, par exemple. J'ai pas envie de savoir qui elle fréquente. J'ai pas envie de la recroiser parce que bah, tu peux être touché ou machin. Donc c'est compliqué. C'est-à-dire que je préfère laisser mes pensées divaguer parce que t'as toujours ce garde-fou de te dire bah, de toute façon, je rêve. Quoi. Enfin, ce que je pense n'est pas réel. Voilà. Ça reste de la supposition, ça reste de la fabulation. Donc je m'en fiche. Après,
tant
ghoster...
Que ouais, tant que c'est pas avéré, tu peux toujours supposer voilà, c'est ça. Que c'est pas
bah, c'est comme en fait quelqu'un qui te trompe aussi. C'est genre, tant que tu ne fais que le supposer, tant qu'on t'a pas fait la révélation, bah, entre guillemets, tu peux vivre avec. Parce que c'est pas avéré. Ghoster, je trouve que c'est une...
C'est violent, ghoster.
Ouais, c'est une sale manie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font parce que...
Trop facile.
Ça les déresponsabilise et puis surtout, c'est... C'est une manière lâche de faire comprendre à quelqu'un qu'on n'est pas intéressé. Parfois, on va laisser sans réponse, dans l'incompréhension, la personne à qui on écrit pub parce que on n'arrive pas juste à être honnête avec la personne pour lui dire bah écoute, ça ne fait pas, je ne veux pas te revoir. Donc, souvent, c'est un problème aussi de culpabilité. C'est-à-dire que tu te sens coupable de lui faire de la peine, de lui faire de mal. Il y a des gens qui vont préférer le mutisme parce que. Bah, c'est plus facile à gérer. C'est comme si, en gros, tu refermais la porte de ta maison et une fois que tu es isolé, tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est faire l'autruche, en fait. Je trouve que, malheureusement, ça arrive de plus en plus souvent parce qu'on est dans cette société de consommation de relations.
Et de déresponsabilisation, surtout.
Ouais, en fait, on veut plus se prendre la tête. Il y a une flemme généralisée de faire les choses bien. C'est-à-dire que, bah, de toute façon... Si je peux matcher quelqu'un en un clic, je vois pas pourquoi je pourrais pas ne plus parler à une personne en un clic. Tu vois, c'est vraiment cette question de facilité, c'est ça.
Parce que tu vois, c'est comme au même titre que commenter une photo, une story, machin, ça va très vite. Tu mets un commentaire, même si c'est la pire des races de commentaires, bah, personne t'empêche de le mettre, tu vois. Donc et après, c'est sous un profil que personne connaît, donc t'as lancé ta bombe et tu te casses. Et maintenant, c'est ça, c'est que tu peux tout faire impunément. C'est pour ça que ghoster, je te dis, c'est violent et les gens s'en foutent, ils en abusent parce qu'ils savent très bien qu'il n'y aura pas de conséquences derrière. Enfin, pour eux, en tout cas. Les autres, non, mais pour eux, oui, ils s'en foutent.
Après, il y a ceux qui vont pas ghoster, mais mettre fin ou en tout cas bloquer les personnes qui te harcèlent. Tu vois.
Le blocage, ça, c'est encore pire. C'est, tu te remets
mais
en
question. Des fois, tu es bloqué parce que la personne te harcèle tous les jours. C'est toi qui as envie de te débarrasser, tu vois. Donc, il ne faut pas confondre ghoster et ça.
Oui, bien sûr.
Et après, tu as aussi, effectivement, tu ghostes et en plus, tu bloques de partout.
C'est ça, c'est que tu ne laisses même pas l'opportunité à la personne en face de te demander des explications et tu la laisses dans le flou. Et je trouve que c'est un manque de respect fou. À la limite, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de ghoster. Aujourd'hui, j'essaye, comme Julien l'a dit, de ne pas faire aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse à moi-même. Donc, j'évite, mais ça me demande beaucoup. Non pas parce que je veux le mal des gens, mais parce que j'ai cette difficulté à assumer et avoir peur de blesser. Et en fait, parfois, je sais que ça fera certainement encore plus mal, Mais à l'époque, en tout cas, ça m'est déjà arrivé. Aujourd'hui, ça m'arrive plus. Là, il y a quelques mois, j'ai dû dire à un garçon qu'il fallait qu'on arrête, alors que je sais pertinemment qu'il n'y voyait rien.
Et ben... regarde, aujourd'hui, on fait un podcast ensemble.
Non, c'était pas toi. Mais
tu me ghosterais pas, je le sais.
J'ai pas encore goûté au fruit défendu. Non, mais voilà, j'ai dû lui dire. Et oh là là, mais j'aurais tellement préféré le ghoster à ce moment-là. Moi, dans ma sensation, c'était horrible. Vraiment, j'ai envoyé le message, le fameux message qui est dur à envoyer. Et j'ai jeté mon téléphone en mode non, oh là là. Finalement, en plus, je me suis rendu compte aussi, c'est que quand t'es vraiment sincère et que tu le fais avec bienveillance, les gens, bon, ils peuvent être touchés dans leur ego et donc t'envoyer un petit pic à la limite, mais sinon, leur retour est toujours hyper positif. Et moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de me faire, pas quitter, mais qu'on me dise, en fait, non, ça n'ira pas plus loin entre nous. Mais c'était fait tellement de la bonne façon et sans remettre en question... mes qualités ou quoi, que en fait ça m'a juste je me suis juste dit, en fait, ok, c'est pas le moment pour lui, il a des raisons de pas vouloir, je les accepte et ça me fait mal au cœur, mais en fait tu passes tellement plus vite à autre chose quand quelqu'un te dit pourquoi, que on ne ghoste pas, on ne le fait plus et vous ne le faites pas, et c'est très bien. Et c'est d'ailleurs sur ces belles paroles que va se terminer cet épisode de podcast qui a été très long, ma foi. On a dû faire au moins une heure et demie tous les trois, mais c'était hyper enrichissant et j'espère que ça va faire plaisir aux filles d'entendre ça, et puis même aux gens de façon générale, de se dire qu'il n'y a pas qu'une seule façon de penser et qu'une seule façon de voir les choses, et qu'on a des avis qui parfois divergent, mais pour autant je pense qu'ils sont tous bons à entendre. Merci les garçons, j'espère que c'était sympa pour vous, que vous avez kiffé l'expérience.
Ouais, moi j'ai beaucoup aimé.
Ouais, c'est vraiment trop bien.
Et je vais rebondir sur ce que tu disais, Ticia, c'est que j'encourage les gens à se libérer de tous les préjugés et de tout ce qu'ils ont pu emmagasiner dans leur vie comme certitude. Il n'y a pas qu'un schéma de vie, il n'y a pas qu'une seule façon de penser, on va dire en restant quand même dans un cadre de bienveillance. Mais ne vous flagellez pas parce que vous pensez différemment, et surtout ne vous mettez pas des barrières sur peut-être des envies que vous n'assumez pas, sur votre façon de gérer vos relations. Je veux dire, il y a des choses à ne pas faire, mais il y a des choses qui sont tout à fait acceptables à partir du moment où c'est mutuel, discuté. Et voilà, ne courez pas après des chimères qui ne vous correspondent pas.
Ouais, il n'y a pas de mauvaise façon. C'est du moment que les choses sont dites, expliquées et comprises, il n'y a pas de problème. Et il faut dire stop aux clichés et aux a priori et aux idées préconçues.
Eh ben merci les garçons, c'était trop bien.
Ah, merci à toi.
Il y aura certainement sur Instagram un petit visuel de leur visage si ça vous donne envie de découvrir à quoi ils ressemblent, parce que généralement les gens, ils sont très frustrés d'entendre quand il y a une invitée ou un invité qui raconte des choses en particularité ou qui parle un petit peu des détails, donc de votre nez, de vos cheveux, comme au début de l'épisode. Et
heureusement qu'on n'a pas parlé de nos gouttes.
J'adore cette conclusion. Et du coup, bah, c'est vrai que les gens sont un peu curieux. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés. Merci les garçons. Et on se retrouve, nous, très bientôt dans un prochain épisode de podcast. Ciao.